Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur la Côte d'Azur. On va à Nice cette fois pour aller faire le bilan de la saison 2019-2020. On est avec Sky Nissa, twittos de supporter de Nice. Salut à toi.
Salut.
Alors bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet sur le mercato 2019-2020 et puis on arrivera jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. On est début juillet.
Allez, ça marche.
Alors donc, le mercato 2019-2020. Il attaque fort puisque tu perds Alan Saint-Maximin directement, qui part à Newcastle. Tu perds Romain Perrault, bon, et Olivier Boscaglié. Mais surtout, le plus important durant ce mercato, c'est le rachat par Ineos.
Ouais, effectivement, ça a été le long feuilleton de l'été.
Et c'est ce rachat qui te permet de prendre donc Claude Maurice que tu vas chercher à Lorient. Tu prends Ounas en prêt du Napoli. Tu prends Nsoki du PSG et puis bon surtout la recrue phare, tu prends Dolberg à 20 millions à l'Ajax. Théoriquement, tu te sens comment à la fin du mercato? T'es satisfait ou pas du
Bah,
tout?
difficile de pas être satisfait. En plus, t'es quand même soulagé parce que tu sors d'un feuilleton de rachat qui a duré en gros depuis le mois de février, les premières déclarations d'intention dans la presse. Donc t'es un peu libéré d'un oui ça va être racheté, non ça va pas être racheté. C'est un peu ce que vivent les supporters de l'OM maintenant. Bon, s'il y a des supporters de l'OM qui nous écoutent, bah, c'était un peu la même chose avec les esbroufes dans la presse, machin. Donc là, t'es soulagé que ça se fasse une semaine avant la fin du mercato et que tu arrives à ramener à peu près tous les joueurs que tu veux au poste que tu voulais et voilà, des stars comme Casper Dolberg en plus.
Et puis, ce qui est intéressant dans ce mercato, c'est que tu prends un bon joueur par ligne, tu prends Dolberg en attaque, tu prends Claude Maurice. Sur les ailes, et puis tu prends une Nsoki derrière, franchement, c'est intelligent, c'est super
Non,
intelligent.
là, ça avait été équilibré et tu comblais à peu près tous tes manques. Tu prends aussi le jeune Boudaoui
Oui, aussi.
directement en Algérie au milieu, un peu en espoir, même si après il se révèle vraiment pendant la saison. Mais tu arrives en un temps record à faire le mercato que tu aurais dû faire en 3 mois normalement.
Et tu arrives surtout à faire oublier Saint-Maximin qui est parti à Newcastle.
Voilà, Saint-Maximin, après, il a une image de l'extérieur de Nice qui est assez flatteuse. Je te dis pas que personne ne le regrette à Nice, mais je pense qu'il est arrivé au bout de quelque chose pour lui, pour sa progression. Il a eu une saison à sa décharge assez compliquée avec voilà l'absence de recrutement et de l'absence de numéro 9 suite au départ de Mario Balotelli à l'hiver. Donc il s'est un peu retrouvé seul sur le front de l'attaque, mais c'est un joueur qui parvenait pas à progresser à Nice et je pense que lui avait des ambitions d'aller voir à l'étranger. Donc sans dire qu'on était content qu'il parte,
Voilà,
c'était
vous
le
y
moment de
attendiez, quoi.
partir sans regret et il a été avantageusement remplacé derrière. Donc au final, pas trop de regret.
Et alors, moi, j'aimerais juste revenir sur une petite chose. C'est un avis purement personnel, mais Patrick Vieira, qui continue à la tête de Nice, vous en êtes content, vous, ou pas?
C'est un énorme sujet de débat et de disputes au sein des
Ouais,
supporters niçois.
mais non.
Je vais essayer de rester le plus objectif possible tout en te précisant d'entrée que moi je suis pas spécialement fan de ce que Patrick Vieira fait à Nice depuis 2 ans. Mais si je suis obligé d'être un peu objectif, je vais te dire voilà, première saison où le président River et son directeur général Julien Fournier le plantent en plein milieu de saison et le laissent avec les actionnaires chinois et Ségane et sans un mercato. Deuxième saison, donc la saison qui vient de se terminer, où il a un mercato d'une semaine et donc il passe les 2 3 premiers mois de la saison à adapter son équipe. Saison qui va même pas au bout, donc tu peux toujours lui trouver des circonstances atténuantes. Après, pour ceux qui, comme moi, vont au stade tous les 15 jours, c'est sûr qu'en passant après Lucien Favre, niveau jeu et spectacle produit, faut se mouiller la nuque. Mais après, les résultats sont là, tu fais 7e et 5e. Donc, c'est un peu comme pour l'équipe de France et la Coupe du Monde 2018. À la fin, tu gagnes. Tu peux toujours dire qu'on aurait pu mieux jouer, mais si les résultats sont là, enfin, voilà, t'as
Donc
raison, quoi.
justement, on va venir sur les résultats donc de Nice cette saison. Tu pars fort avec trois victoires en 4 matchs. Bon, derrière, c'est un peu plus compliqué. Tu fais une mauvaise série où tu fais 3-4 défaites de rang. Les coupes, on les oublie, hein. La Coupe de la Ligue, on va l'oublier. Mais à la mi-saison, donc tu te retrouves dixième. Et t'es loin d'être largué sur Lille, hein, qui est quatrième, qui joue à la Ligue Europa. C'est plutôt voilà, milieu de tableau. On sent que c'est la saison de transition, en fait, hein, clairement.
C'est ça, c'est ce qui était annoncé. De toute façon, saison de transition. Tu pars avec un très bon mois d'août où tu joues, je vais pas dire avec les réservistes, mais tu joues avec ceux qui sont amenés à être au bout du banc ou à partir en attendant que le mercato se débloque. Tu fais tes recrues et avec le temps d'adaptation, tu perds l'avance que tu avais prise.
Ouais.
Et après, ça a été un championnat extrêmement serré jusqu'au bout. On va y venir à l'arrêt de la saison. Mais tu finis à une cinquième place extrêmement flatteuse et en fait, tu es dans un groupe de 4-5 équipes qui, à deux matchs près, sont complètement interchangeables. Donc, la dynamique nous a bien poussé, ça s'est arrêté au bon moment. Mais c'est vrai qu'à aucun moment dans la saison, on a vraiment été largué, même quand on était un peu au creux de la vague.
Justement, on va y venir justement à l'arrêt de la saison. Quand on est niçois, c'est une bonne ou une mauvaise chose?
C'est une super nouvelle. Bon, forcément, en tant que supporter de foot, tu ne peux pas être content d'être sevré de foot pendant 6 mois. Après, non seulement tu t'arrêtes sur une magnifique victoire à la dernière minute dans le derby face à Monaco, donc il y a quand même pire comme façon de conclure une saison. Et en plus, c'est une victoire qui te permet d'accrocher une sixième place, qui ensuite est transformée en cinquième place sur un point de règlement obscur de la Fédé, de la LFP. Donc, c'est franchement les gagnants de l'arrêt de la saison, c'est nous. Enfin, il y a aucune, bon, bien sûr que Marseille, Rennes, ils sont contents aussi, mais nous, c'est vraiment un hold-up. Cette cinquième place, ça joue vraiment en notre faveur. Donc, même si en tant que fan de foot, tu peux pas être content, nous, ça nous permet peut-être de gagner une saison sur le projet parce qu'on a de fortes chances d'accrocher l'Europe dès la saison prochaine.
Surtout que quand tu regardes les matchs qui te restaient, qui ont été annulés, tu as quand même Marseille, tu as Lille, PSG.
Voilà, le calendrier n'était pas super favorable. Et la semaine d'avant, tu étais 9e avant ce derby. La semaine d'après, tu devais te déplacer au Parc des Princes. Donc, sans faire le chat noir, vraisemblablement, tu allais perdre. Tu te serais retrouvé 9e. Donc voilà, tu retrouves à cette 5e place. Le président et Patrick Vieira disent qu'on a volé aucun point sur le terrain, c'est vrai. Mais ça, voilà, ça s'arrête vraiment pile poil au bon moment.
Ah oui, c'est sûr. Et bon, maintenant on va revenir un petit peu sur ce qui se passe actuellement. Il y a des choses à dire puisque Nice est l'un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts. D'abord, avant de revenir sur les arrivées, il y en a eu beaucoup pour l'instant. On va revenir sur le départ, Malanxar, libre comme ça.
C'est moche parce que déjà, formé au club, il y est vraiment depuis l'école de foot, donc c'était le plus ancien au club malgré son jeune âge. Il a fait partie de cette magnifique équipe qui termine troisième avec Lucien Favre dès sa première saison en pro. Ça s'est un peu gâté par la suite, il a été un peu obligé de dépanner au poste d'arrière gauche où je pense qu'il n'a absolument pas les qualités pour.
Non, oui, c'est pas du tout son poste.
Voilà, il y avait une grosse pression sur lui parce que le club dans son projet, son mercato, s'est raté depuis 2017 et le départ d'Albert. Donc on n'a jamais réussi à trouver un remplaçant et c'est lui qui a fait un peu office de bouche-trou. Puis du coup, il a progressivement perdu sa place dans l'axe à cause de ses mauvaises performances à gauche. Le club a choisi de recruter Stanley Nsoki, qui a un profil assez similaire l'été dernier. Donc lui, je pense qu'il a senti le vent tourner. Il s'est dit, au lieu de m'installer dans l'axe à la place de et prendre naturellement la succession de Dante, on prolonge Dante, on fait venir un jeune joueur qui a le même profil que moi. Je pense qu'il a eu raison d'aller voir ailleurs, surtout que bon, même s'il a signé nulle part pour l'instant, il est courtisé par des grands clubs européens. Il a le potentiel pour s'y imposer à terme. C'est dommage pour nous, c'est dommage de faire 0 € sur un joueur que t'as formé au club. Mais bon, c'est une surprise et je pense que c'est même une décision pleine de maturité de sa part.
On va clore la saison avec la question que je pose à tout le monde, à tous les clubs. C'est qui pour vous à Nice le meilleur joueur de la saison? J'ai ma petite idée, mais votre avis.
Obligé de dire Casper Dolberg. Après,
c'est ce que j'allais dire aussi.
c'est l'effet de la nouveauté, c'est surtout qu'il a un talent balle au pied qui est vraiment, vraiment au-dessus du reste de l'effectif. Il a été pas mal décrié au début, notamment par le Canal Football Club, que je soupçonne de ne pas regarder les matchs de Nice, de toute façon, avant d'en faire les commentaires. Voilà, quand on voit qu'un mec comme Casper Dolberg se fait traiter de touriste allemand en sandales, déjà le niveau de l'analyse n'est pas terrible, mais en plus, je pense que la suite de la saison a prouvé que c'était pas le cas. C'était un peu le temps de se lancer dans un nouveau championnat et que l'entente avec Ounas se fasse. Mais il finit la saison avec une douzaine de buts, en étant amputé de de 2 mois, début très important, notamment le doublé dans le derby. Et voilà, et c'est un très jeune joueur qui a encore un potentiel immense. Je pense que tout le monde est unanime sur Kasper Dolberg à Nice. Après,
Oui, bonne.
le plus régulier et celui qui a peut-être rapporté aussi le plus de points directement, c'est Walter Benitez, notre gardien qu'on a réussi à prolonger un peu par miracle, je pense, grâce au coronavirus aussi, qui a peut-être fermé quelques portes, qui depuis plusieurs saisons est particulièrement important. Il est toujours là dans les moments les plus difficiles. J'ai en tête ce match à Toulouse où on est à deux, enfin où il y a un penalty contre nous à la dernière minute, alors qu'on mène 1-0 et qu'on a joué quasiment tout le match à 11 contre 9. Et il arrête ce penalty où ben, il
Ouais.
évite une humiliation et je pense d'inverser une dynamique qui était bonne à ce moment-là. Donc voilà, difficile de choisir entre les deux. Le plus médiatique c'est Dolberg, mais après peut-être le plus régulier c'est Benitez.
C'est clairement, moi je vais revenir un petit peu dessus. C'est clairement Benitez, c'est clairement l'un des meilleurs gardiens de notre championnat, tout simplement. C'est moi, il
J'ai du mal à voir
m'impressionne.
qui est au-dessus. Là, il y a une grosse cote avec Rajkovic cette
Ouais.
saison, à voir s'il confirme sur plusieurs années. Voilà, mais Benitez a vraiment pour lui que il répète les bonnes performances. C'est difficile de trouver un match où il a été mauvais, voire même moyen. Il sort en plus vraiment à des moments clés. Il est pas, je pense qu'il doit être à 40% d'arrêt sur penalty, pas tout à fait un sur deux,
Oui, c'est
mais
des
assez
polis dans le
élevé.
domaine.
Voilà, si tu demandes aux supporters lyonnais ce qu'ils pensent de Benitez, ils en font des cauchemars sur il y a certains matchs où il les a écœurés.
Et pour revenir sur Dolberg, moi c'est un joueur que vraiment j'adore ce joueur. Il est très fort, très bon balle au pied, finisseur incroyable. Pour moi, je le vois encore à Nice l'année prochaine et faire encore une meilleure saison. Moi, je base beaucoup d'espoir sur Kasper Dolberg, pardon.
Ouais, je sais qu'on est que l'OGC Nice, mais on a quand même vu passer ces 10-15 dernières années quelques attaquants sympathiques pour le niveau de la Ligue 1. Voilà, on a Pléa dans un registre très différent. Tu as Loïc Rémy bien avant, tu as eu Dario Zitanić et forcément Mario Balotelli.
Oui.
Donc bon, on a été bien habitués à ce poste de numéro 9 quand même, mais là on a encore réussi à être surpris. Donc il est dans un registre différent des autres. Forcément, mais il y a une qualité technique balle au pied, une intelligence de jeu qui est vraiment supérieure à ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu voir ces 10-15 dernières années. Et bon, je suis pas, voilà, encore une fois, hein, je suis pas du tout objectif là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même pas beaucoup, en termes de potentiel d'intelligence de jeu, il n'y a pas beaucoup d'attaquants comme ça qu'on a vu passer en Ligue 1, hors très, enfin, top club, évidemment, Ibrahimovic, Cavani, tout ça, mais c'est très 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 fort et je pense que sa seule limite actuellement, c'est de pas avoir beaucoup de pourvoyeurs de ballon. Ça a été compliqué avec Ounas pendant 6 mois. Claude Maurice est encore très très jeune,
Oui, il en
mais
récupérait le coup.
là où le mercato de Nice, et on va y venir, est très attendu, c'est que si on arrive à choper un ou deux gros ailiers pour lui donner des ballons, ça peut être très très vite un carnage et je verrais bien à ce moment-là taper la barre des 20 buts sur la saison.
Et juste avant de revenir sur le mercato, c'est quoi à Nice le joueur dans lequel vous aviez le plus d'espoir et qui vous a le plus déçu?
Je sais pas forcément dire que c'était des espoirs qu'on avait en lui. Le club, oui, parce qu'il a mis 10 millions d'euros et une clause à la revente assez intéressante sur Mylène Maolida. Force est de constater que même après 2 saisons chez nous, ça marche toujours pas. Il n'arrive pas à s'imposer dans le 11 titulaire. Il s'impose même péniblement dans le groupe pro. Il fait quand même pas beaucoup d'apparitions. Il peine à être décisif malgré toujours un ou deux éclairs de génie dans la saison, mais c'est vraiment, vraiment insuffisant. Donc, le club, a priori, va lui renouveler encore sa confiance pour une troisième saison. Il n'y a pas, à ma connaissance, de prêt ou de vente, ce qui serait difficile de toute façon de se rentabiliser vu ses performances. Mais ça commence à devenir inquiétant pour un joueur sur qui on a quand même misé gros et qui montre aucun signe d'amélioration et pour qui la concurrence va devenir de plus en plus dure.
Ça va être là la troisième saison pour lui, ça va être la saison où il va falloir vraiment qu'il montre qu'il a sa place dans le projet, quoi.
Après, c'est un très jeune joueur. Hein. S'il partait en prêt une saison, qu'il enchaînait les matchs, il pourrait revenir et s'imposer à Nice, je suis sûr. Mais enfin, il peut pas enchaîner une troisième saison quasiment blanche comme celle-là, où en plus, sans parler de nos des sous de l'OGC Nice, parce que bah, déjà c'est pas les miens, mais c'est pour lui et pour sa carrière que ça sera inquiétant.
Bon, alors le mercato, du coup, pour l'instant, donc comme on l'a dit, Malang-Sarr part libre. On a aussi Cyprien, donc il part libre.
Alors, Cyprien, il va partir encore.
Comment?
Cyprien, il va partir.
Il n'est pas parti encore, oui, mais... C'est...
Cyprien, il lui reste un an de contrat, mais c'est le gros candidat au départ pour... c'est une question de semaine, je pense. Hein.
D'accord. Et au niveau des arrivées, donc, on a pour l'instant officiellement donc Guiri à 7 millions qui vient de Lyon. On a Camara, donc de Reims, à 4 millions. On a Schneiderlin, qui vient d'Everton, international français. On a le jeune Dani Lyouk, qui vient du Bayern Munich. Et Robson Bambou, le Brésilien.
Exactement.
Alors, sur les 5, c'est lequel qui te donne le plus envie, qui te hype le plus?
On aurait fait cette émission la semaine dernière, avant le premier match amical. Je t'aurais sûrement pas donné la même réponse. Donc bon, même si les matchs amicaux d'avant saison, ça veut rien dire tout ça. Mais déjà, il y a Hassan Camara qui a fait une assez grosse performance. Et comme je le disais tout à l'heure, un poste de latéral gauche qui a été délaissé depuis 3 ans à Nice. Donc forcément, il va faire rapidement bonne impression. En plus d'être talentueux, puisqu'il a été élu meilleur latéral gauche de Ligue 1 avec Reims. Mais ça va très très vite plaire aux supporters niçois qui vont voir la différence avec tous les joueurs qui se sont succédés à ce poste-là ces dernières années.
D'accord avec toi, j'ai regardé le match là, contre Lyon, il joue que la première mi-temps, mais une première mi-temps qui est vraiment solide. Vraiment une grosse prestation.
Après, Dani Lyouk, c'est un très jeune joueur qui s'était pas encore imposé dans la réserve du Bayern, mais qui va venir d'abord pour notre réserve. Mais il a montré une maturité et une puissance physique, c'est un Golgoth, hein, vraiment.
Ouais.
Déjà, face à des gros morceaux, hein, il met Memphis Depay à terre, d'un coup d'épaule, il éjecte Moussa Dembélé, qui est quand même une sacrée carcasse. Enfin, c'était vraiment très, très impressionnant à voir. Après, c'est un joueur qui a le temps de grandir. Voilà, pas trop d'espoir en lui dans l'immédiat.
Oui, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que je l'ai pareil sur le match amical face à Lyon. Il te met 2-3 contacts physiques. Tu sens que le mec, il en impose. Après, c'est sûr que pour l'instant, pour la Ligue 1, il est sûrement pas encore prêt. Hein. Ça vient,
voilà, lui, il est plus prêt physiquement déjà par sa carcasse, et parce que je pense qu'avec le Bayern, il y a eu moins de coupures qu'en France. Je pense qu'il y a un peu d'avance sur la préparation physique, et ça joue très très vite dans ces matchs d'avant saison. Mais bon, on a tout de suite compris pourquoi Nice était allé chercher un jeune joueur du Bayern inconnu, parce que maintenant il y a un potentiel qui est là. Après, c'est le travail qui fera tout le reste. Mais je me fais pas trop de soucis pour sa capacité à travailler. Est-ce que pour l'anecdote, il a pris 6 kilos pendant le confinement, mais c'était 6 kilos de muscles. Donc, voilà. Déjà qu'il était pas mince avant, là, c'est une, voilà.
Ouais, comme tu disais, c'est un Golgoth, hein. Ensuite, on peut passer sur Guiri. Pour info, au moment où on enregistre, j'ai déjà enregistré avec le supporter lyonnais.
Qui était dégoûté, j'imagine.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment une perte pour Lyon et pour Nice, c'est vraiment un atout. Il est encore jeune, hein, il a encore le temps, mais c'est un bon transfert. À 7 millions, c'est peut-être un peu cher pour un joueur qui n'a pas encore joué en Ligue 1, mais c'est une recrue qui peut être théoriquement une top recrue sur le futur.
C'est un peu cher, mais déjà le marché est tellement fou, et puis les jeunes Lyonnais historiquement coûtent très très cher. Donc on a peut-être la chance de le faire maintenant, avant qu'il enchaîne quelques matchs en Ligue 1 et qu'il soit intouchable, comme un Cacré, un Cherki, qui ont eu un peu plus de temps de jeu. Alors pas beaucoup, parce que j'en parlais moi-même avec des supporters lyonnais, Garcia est quand même relativement frileux sur lancer les jeunes, mais on a profité du fait qu'il ait senti que son avenir et son temps de jeu étaient bouchés à Lyon, et qu'il est venu soit venu en chercher à Nice. C'est un énorme coup symboliquement d'aller chercher un des plus gros talents de l'Académie lyonnaise, alors que jusque-là on récupérait un peu leur deuxième et troisième choix. Donc, à part Misiane, on a quand même été plutôt heureux avec les Pierre Mounier, Rémi, Colo. Il y en a plein qu'on a récupéré des jeunes lyonnais à Nice qui ont fait la belle histoire de ces 15 dernières années au club. Mais là, on a l'impression que c'est une. Enfin, c'est niveau au-dessus encore, et que s'il a la tête bien faite et qu'il continue sa progression, on a peut-être un des meilleurs joueurs offensifs de Ligue 1 à venir.
Tu le sens titulaire, toi, dès le début de saison ou pas? Si t'es coach, tu le mets titulaire ou pas?
Non, ça va être compliqué. Déjà, je pense qu'il faut qu'il trouve un peu son poste préférentiel, parce qu'il peut jouer un peu partout devant,
Ouais,
ce qui est utile dans la vie d'un groupe. Je pense pas qu'on jouera deux attaquants immédiatement. Ça peut être une solution, mais Vira tient à son 4-3-3. Donc, tu as déjà deux places de prise avec Claude Maurice et Dolberg. On va vraisemblablement recruter deux ailiers ou deux milieux offensifs polyvalents. Donc, il va rentrer dans la concurrence où ils vont être... Ouais, ils vont être 5 pour 3 postes, ce qui va être utile pour jouer l'Europe, et il va progressivement gagner en temps de jeu comme ça. Mais titulaire immédiatement, c'est peut-être pas lui rendre service, parce que c'est ce qu'on a fait avec Miziane par la force des choses, parce qu'on n'avait pas réussi à recruter tous les joueurs qu'on voulait devant, et ça lui a vite mis une pression. Bon, là, il n'y aura pas le montant du transfert, et il y aura des joueurs plus médiatiques devant lui, je pense, pour lui enlever un peu de pression, mais il faut clairement faut qu'il termine son apprentissage.
parce que tu le disais, et on le rappelle pour ceux qui nous écoutent, Nice devrait théoriquement jouer la Ligue Europa sous réserve des matchs de coupe, des finales, entre la Coupe de la Ligue Paris Saint-Germain-Lyon et la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne. Mais théoriquement, il doit
Ouais,
plus.
il suffit que Paris fasse le taf face à Saint-Etienne pour nous envoyer en phase de groupe
Voilà,
de l'Europa League. Donc
c'est ça.
bon, on va toucher du bois. C'est pas encore fait, on attend dans les 2 prochaines semaines que ça se décide. Et puis voilà. Je pense que ça influera aussi sur notre mercato de pouvoir vendre un joueur sur une participation aux Coupes d'Europe.
C'est sûr.
Plutôt que maintenant où ça reste incertain.
Bon, ensuite, il nous reste encore deux recrues à voir. On va d'abord commencer par celui qui est un peu moins connu pour nous, Européens, c'est Robson Bambou. Bon, on le connaît moins. Moi, je vais pas m'inventer une vie, j'ai jamais vu jouer.
Pareil,
Donc,
bon.
bon, on pense qu'à 8 millions, c'est quand même un espoir, mais.
Ouais, c'est quand même pas un petit investissement, même si aujourd'hui les joueurs brésiliens, tu es quand même obligé de sortir un peu d'argent pour pouvoir les faire venir en Europe. Il avait une certaine cote en Europe, il y a Lyon encore une fois hein, qui était intéressé par le joueur. 8 millions, c'est certes de l'argent sur un joueur qui n'a jamais joué en Europe, mais c'est un poste où il va avoir le temps d'apprendre à côté de Dante, quand même, qui est une référence au Brésil à ce poste-là. Et puis bon, c'était histoire de sécuriser un peu de doubler les postes parce qu'on a une Soki qui peut jouer axe gauche, on a Andy Pelmar comme jeune qui sort du centre de formation qui peut jouer axe droit. Christophe Herrel n'est pas encore parti, même si le club l'invite à aller voir ailleurs. Mais du coup, voilà, tant qu'il est là, on a quand même 5 défenseurs centraux, voilà, 4 plus ou moins confirmés, un jeune du centre pour 4 postes. Je pense que même si Herrel restait, il aurait forcément moins de temps de jeu. Mais en jouant 3 compétitions, ouais, tu aurais de quoi te partager avec tout le monde. Puis bon, Dante sera pas éternel. Je pense que c'est aussi à terme, il y aura de la place pour tout le monde.
Ouais, l'intérêt, ouais, c'est l'intérêt de pouvoir commencer un petit peu à préparer la succession de Dante qui commence vraiment à être âgé, mais bon, il est toujours pour l'instant toujours au niveau, hein,
Voilà,
de
c'est un peu un diesel à cet âge-là. Forcément, la préparation physique d'avant-saison, c'est plus compliqué
mmh.
de se mettre dans le rythme. Mais au final, la saison dernière, on a vu qu'une fois que la saison était lancée, il rendait encore plus que des services. Et dans un effectif comme Nice, qui est très très jeune, un des plus jeunes d'Europe, c'est un des rares trentenaires, même si on va en parler maintenant, il y a Morgan Schneiderlin aussi. Donc c'est important d'avoir un genre d'expérience comme ça, et en plus qui a connu le top niveau européen et mondial.
Donc t'en parlais, voilà, la dernière recrue, enfin pour l'instant la dernière recrue, Morgan Schneiderlin qui arrive d'Everton, international français qui a connu la Première Ligue pendant de longues années, qui joue au milieu de terrain, donc très expérimenté, et pourtant bon ça va être ses premiers matchs, enfin premier match en
Quasiment
Ligue
les
1.
premiers matchs en France, ouais, effectivement, 12 ans après être parti.
C'est ça. Bon bah ça va être un taulier directement, je pense, hein.
À lui, il vient aucune concurrence, hein, il vient pour être titulaire. On cherchait un numéro 6 expérimenté depuis des années. À son poste, on a Khéphren Thuram, le 6-2, du coup, qui est très très jeune, même s'il s'est montré plutôt intéressant par intermittence. Mais bon, il a encore quelques années d'apprentissage devant lui, et ça lui sera profitable d'avoir un Schneiderlin pour lui apprendre un peu les ficelles du métier. Et tu as Danilo qui est à base un milieu défensif, qui a beaucoup dépanné en défense centrale l'année dernière, que le club aussi, en tout cas le club est ouvert à opportunité s'il y a possibilité de le vendre. Donc clairement, Schneiderlin, il vient pour être le titulaire indiscutable au milieu de terrain. Il va apporter un peu de taille, beaucoup d'expérience.
Beaucoup d'expérience dans un style, comme tu disais, qui est très jeune.
Voilà, donc c'était vraiment le profil qu'on attendait. Après, je peux comprendre qu'il y ait des réticences puisque il sort d'une blessure, même si elle n'est pas grave, assez longue durée. Ça a été un peu compliqué à Everton ces derniers mois, même si il a su gagner la confiance de Carlo Ancelotti, qui n'est pas n'importe quel entraîneur.
Ouais.
Voilà, je pense qu'il faut aussi raison garder. C'est la Ligue 1, hein, c'est pas la première ligue. C'est l'OGC Nice aussi, même si on a des ambitions. Je pense qu'un joueur comme Morgan Schneiderlin, ça doit marcher facilement sur le milieu de terrain de 15, 16 ou 17 clubs de Ligue 1, bien entouré avec des joueurs de ballon. Je pense que voilà, il sera à son avantage. Et en plus, c'est une incroyable opportunité financière parce que tu récupères ce profil pour 2 millions hors bonus.
Ouais.
Donc c'est, enfin voilà, je pense que tu vois un rapport qualité-prix, de toute façon, c'est imbattable.
Voilà. Sachant que voilà, on le répète, on est mi-juillet, enfin début juillet même, le mercato est loin d'être fini, il va y avoir encore pas mal de ventes, je pense, côté Nice. Quand on regarde le match amical, on pense que les Issan Sako et Ganago,
Ganago, a priori, c'est,
et ce serait quasiment fait à Lens.
Que tu publies l'émission, il sera officialisé
à
Lens, donc c'est une bonne chose. Issan Sako, il a eu du mal en prêt l'année dernière à Troyes. Ça serait bien qu'il trouve preneur ailleurs, mais c'est pas impossible que ce soit un nouveau prêt pour lui, faute de propositions intéressantes. Mais oui, c'est pas des joueurs qui sont amenés peut-être péniblement apparaître dans le groupe pro, mais même pas. Enfin voilà, Issan Sako, il va avoir au moins Millian devant lui et probablement une ou deux recrues, avec Guiri qui est déjà là. Enfin, l'avenir est bouché pour lui. Et après, je pense qu'on doit attendre encore. Je vais me lancer dans les estimations un peu, Madame Irma, mais je pense qu'on attend encore, je te dirais bien 5 joueurs, mais il va falloir pour ça qu'il y ait des départs.
Et alors, dans ces 5 joueurs que tu attends, c'est quoi le poste prioritaire pour toi?
Poste prioritaire, c'est le poste d'ailier droit. Il faut remplacer, ou en tout cas, milieu offensif polyvalent, il faut remplacer le départ d'Adamounas. Faut pas se rater dessus. Moi, je serais plutôt pour un profil un peu expérimenté. En tout cas, il y a quelques saisons en première division d'un grand championnat dans les pattes, parce que voilà, faut accompagner un Claude Maurice qui est très talentueux mais très jeune, Dolberg qui est certes jeune mais quand même qui a quelques saisons au plus haut niveau aussi derrière lui. Faudra un peu de bouteille dans ce secteur. Voilà, en défense on l'a avec Dante, au milieu avec Schneiderlin. C'est bien si devant tu as un joueur pas forcément trentenaire mais qui a 24-25 ans, qui a une centaine de matchs ou 150 matchs en pro dans les pattes.
Et bon, on va essayer d'être. Si tu étais au club, toi, tu aurais un nom comme ça à nous proposer?
C'est compliqué là, on s'intéresse à Jérémy Boga, mais rapidement, c'est des profils qui vont te coûter 20-25 millions. Voilà. Moi, j'irais bien chercher voir si un Malcolm ou Zidit, c'est possible. On sait qu'il a des difficultés d'adaptation là-bas, voire même en prêt. T'as aussi un joueur comme Ronny Lopez en Espagne qui pourrait être disponible. Mais voilà, ce genre de profil qui est autour de 25 ans et qui a une expérience européenne pour vraiment apporter une plus-value immédiate à ce secteur du jeu.
Ouais, je vois le genre de profil que t'aimerais. C'est
ce que Ounas aurait pu être, mais qui malheureusement a pas su confirmer et convaincre les dirigeants de l'option d'achat.
Voilà. C'est oui. Et bon, du coup, tu t'attends à quoi la saison prochaine à peu près pour Nice?
Alors là, le problème, c'est qu'avec de tels investissements, même si tu as cité les montants tout à l'heure, on n'est pas sur des fortunes encore, mais ça va venir avec pas mal d'autres joueurs. La saison qu'on a faite aujourd'hui est malgré tout la faiblesse relative de la Ligue 1, tu es obligé de jouer le top 5. Pour moi, j'irais pas jusqu'à dire qu'on doit être les dauphins du PSG dès cette année, tout ça, loin de là.
Oui.
Il y a des belles équipes, et même si on s'en moque un peu, des équipes comme Lyon ou Monaco, entre leur puissance financière et la qualité des joueurs qu'ils ont en stock, même sans faire un grand mercato, ça peut largement jouer le top 5 aussi. Mais voilà, aujourd'hui, l'ambition de Nice, c'est de faire au moins aussi bien que la saison dernière, donc 5e, 6e. Et si possible, un parcours en Coupe d'Europe. Passer les poules et aller, je sais pas, chatouiller les 8e de finale. L'idée, c'est pas non plus de jouer la gagne cette saison, mais si tu fais 5e plus 8e de finaliste d'Europa League, je pense que tu pourras parler de saison réussie.
Oui, ce serait intéressant d'avoir un vrai bon parcours de Nice en Europe. Et puis après en Ligue 1, bon bah tu as encore Paris, bon Marseille, Rennes. Il y a du monde, mais tu peux vraiment essayer progressivement dans le top 5, et voire même après viser plus, hein.
Faut que tu arrives à concurrencer ce petit groupetto de Marseille qui va peut-être perdre des forces déjà financièrement aussi. Leur mercato il va être compliqué. Lille et Rennes qui vont peut-être perdre des forces en Coupe d'Europe, on te dirait Nice aussi si on y va, mais rester un peu dans ce giron de 4-5 clubs si tu ajoutes Lyon et Monaco. Et te tirer la bourre pour les places de 2 à 6 derrière le PSG. Et
Ouais.
après, normalement, tu fais le mercato et tu dois avoir maintenant l'expérience pour finir devant des équipes comme Montpellier ou Reims qui t'ont posé des problèmes cette saison.
Ouais, voilà, c'est essayer de passer un cap, de plus être, voilà, cette équipe, comme tu le dis, comme Montpellier, comme Reims, et de vraiment de passer un cap pour devenir une des plus grosses équipes, pour devenir top 5 Ligue 1, quoi.
Après, c'est la régularité qui est le plus dur à avoir, hein. On a déjà fini troisième, on a déjà fini quatrième plusieurs fois aussi.
Ouais.
Ces dernières années, on a accroché des Coupes d'Europe, mais c'est s'installer durablement dans ce top 5, comme l'a fait Lille ces dernières saisons
Oui.
depuis son rachat. C'est ça maintenant le principal challenge de d'Ineos à la tête de Nice.
D'accord, voilà. Bon. Bon, bah écoute, tu vois autre chose ou pas?
Je pense qu'on a été plutôt complet. On a hâte de voir les prochaines semaines. Comme je te disais, Nice risque d'être encore très actif sur le marché des transferts. Je pense qu'on va être l'équipe encore la plus active dans les
C'est sûr.
prochaines semaines. Je pense même qu'on va monter en gamme. Pour l'instant, on fait les coûts qui étaient disponibles et à pas cher. Si je devais me mouiller, je pense qu'on fera un ou deux joueurs à la Dolberg financièrement. Pas forcément plus, mais voilà, peut-être un joueur, deux joueurs au-dessus des 10 millions, en tout cas. Après, il faudra pas se tromper sur le profil, mais je pense que on va envoyer du lourd devant pour accompagner Dolberg. Et une fois que Cyprien sera parti, si on arrive à le vendre correctement, je pense que son remplaçant aussi pour accompagner Schneiderlin sera un profil avec une expérience européenne.
Oui, parce que je me répète, mais je le rappelle, on est encore début juillet, il y a encore du temps avant la fin du mercato,
C'est ça. Surtout le
les
mercato qui
effectifs,
risque de durer jusqu'à octobre cette
voilà,
année, donc
les effectifs vont encore beaucoup évoluer. Donc
Oui.
voilà. Bon, ben écoute, merci d'avoir participé.
De rien, merci de m'avoir accueilli.
Et puis bon, on se retrouve pour un prochain podcast dans un autre club de Ligue 1. Merci à toi et puis bonne soirée.
Bonne soirée.